Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. À partir de quelques dates clés de sa vie, il va vous raconter son parcours, ses passions, donc son histoire. Mais les clés d'une vie, ce sont aussi d'autres histoires liées à votre vie. Allez, comme tous les jours, grâce à ces clés, j'ouvre maintenant la porte à nos souvenirs. Quand il a pris le large, certains esprits étroits se sont moqués de lui. Il a été un précurseur de l'écologie parce qu'à l'inverse de beaucoup d'autres, il était déjà dans le bain. Il évoque aujourd'hui Cuba en images avec l'espoir que ce film au pays des cigares fasse un tabac. Bonjour Antoine.
Vous n'en ratez pas une, mon cher ami.
Écoutez, l'an dernier, je vous avais déjà reçu dans les clés d'une vie pour parler de votre carrière de chanteur, mais il y a aussi votre vie de navigateur. Et c'est pour ça que je vous reçois aujourd'hui. On va en parler, surtout qu'il y a une double actualité, un agenda, une année autour du monde dont on parlera tout à l'heure, et puis un DVD sur Cuba, un Cuba très particulier que vous retrouvez, je crois, pour la 7e fois. Mais avant tout, on va parler de votre passé de navigateur qui a commencé avec une date importante, le 5 juin 1974.
Et ben c'était la mise à l'eau de mon bateau. Quoi.
Exactement.
La mise à l'eau de mon... J'avais décidé que je partirais... Quand j'avais 25 ans, j'ai découvert le bateau.
Voilà. Ça s'est passé en 69
En 69, voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, j'avais loué une villa. Je ne connaissais rien du tout au bateau. Hein. J'avais loué une villa et dans l'inventaire de la villa, qui était au bord de l'eau, à Saint-Raphaël, à Boulouris, et il y avait un petit dériveur qui prenait l'eau, qui a failli couler, on a failli couler plusieurs fois, mais ça m'a ravi tout de suite. Et puis, très vite, avec des copains, on s'est dit, on va partir faire un tour du monde. Et j'ai fixé, on en a fixé ensemble, le tour du monde, on le ferait quand j'aurai 30 ans, l'été, donc, l'été de 74.
Voilà. Oui, et vous avez eu 30 ans, la veille, le 4 juin 74.
Voilà, et j'avais, c'était la première fois que j'ai dormi sur mon bateau, qui n'était pas terminé d'ailleurs, qui était encore dans le... Il était encore dans le chantier. Et ben, c'était mon anniversaire, mes 30 ans. Et je suis parti, en fait, un peu de retard. Le bateau a été prêt au mois d'octobre. Et je pensais que ça durait 5 ou 6 ans. Ça fait 43 ans que ça dure.
Et vous ne les faites pas. Pourquoi cette idée de bateau, Antoine?
Ben, j'ai été voyageur déjà. Hein. Je suis né dans une île, d'un père né dans une île. Je suis né à Madagascar, d'un père corse. J'ai vécu enfant à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai voyagé au Cameroun, dans différents pays d'Afrique et un peu partout. Et je savais que je serais voyageur, quoi. Dans les années 60, j'ai pris la route. J'ai pris la route, ça m'a amené à faire des chansons. Ça a bouleversé ma vie avec le succès des Élucubrations et d'autres chansons. Et ça m'a vraiment... Le voyage, avant tout, me plaisait. Dans la chanson, ce qui me plaisait, c'était de partir en voyage. Et puis, quand le bateau est arrivé, c'était tout à fait inattendu. J'avais jamais fait de bateau à voile personnellement quand j'étais enfant, quoi. Mon père n'était pas membre d'un yacht club ou chose comme ça. C'était tout à fait... Voilà, ça a été une passion soudaine et ça s'est vraiment confirmé, quoi.
Oui, alors il faut, encore une fois, il faut construire le bateau, il faut le choisir. Ça n'a pas été simple, ça a pris du temps, Antoine.
J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont bien conseillé. Il y avait le grand navigateur Bernard Moitessier, il y avait des écrivains nautiques, il y avait un groupe de deux garçons qui avaient fait un tour du monde tout à fait initiatique et fabuleux, qui s'appelait les Damiens. Et tous ces exemples m'ont vraiment aidé. Les gens m'ont donné des coups de main, des industriels du bateau m'ont conseillé, m'ont aidé à réaliser mon projet. Quand je suis parti, j'avais vraiment eu l'aide de beaucoup de gens et l'encouragement, quoi. Donc, il n'était pas question que je me dégonfle, quoi. Quand je me suis retrouvé au pied du mur, que j'allais partir tout seul, traverser d'abord la Méditerranée et puis l'océan Atlantique, eh ben, il n'était pas question de se dégonfler, quoi.
Non, mais en même temps, est-ce qu'il vous prenait au sérieux? Vous étiez l'interprète des Élucubrations je l'appelle Canel. Est-ce que c'était envisageable que vous fassiez du bateau, Antoine?
Ben, les gens m'ont fait confiance, oui. Les gens m'ont fait confiance. Les médias, la presse, peut-être pas. À l'instant où il suffisait que tout d'un coup, il n'y ait pas eu de nouvelles de moi pour 3 jours pour qu'ils disent, oh là là, il a coulé.
C'était... Oui, au départ, on n'a pas cru que on pensait que ça durerait quelques semaines.
Voilà, et puis, bon, on pensait que ça durerait quelques semaines, quoi. Puis ça a été, la première année a été un petit peu difficile, des apprentissages, des déceptions, des joies, des frayeurs. Et puis petit à petit, ça s'est amélioré, et puis au bout de 2-3 ans, il n'était plus question de s'arrêter, quoi. Donc j'ai fait un tour du monde entier, et pratiquement tout en solitaire, sauf avec la future mère de mes enfants qui est venue naviguer par moments avec moi, que j'ai rencontrée à Tahiti d'ailleurs. Et puis, avant même d'avoir fini le tour du monde, je savais que je ramènerais le bateau en France, Il s'appelait Home, le bateau, c'était une goélette de 14 mètres.
Et pourquoi Home ?
Home parce que c'était, on était à l'époque de la méditation. Home, c'est un mantra, en quelque sorte. C'est dans les religions hindoues, tout ça. Bon, voilà, donc, j'ai ramené le bateau, Home, que j'ai vendu à un copain qui a parti faire un tour du monde, d'ailleurs, avec. Et puis, moi, j'ai mis en route un deuxième bateau plus petit.
Alors, ce premier voyage, il y a eu l'Afrique, il y a eu l'Amérique du Sud, il y a eu donc le Brésil, il y a eu Tahiti,
l'Australie,
il fallait apprendre la navigation. Est-ce que vous l'avez apprise sur le terrain ?
Ah oui, ben j'ai connu l'époque, maintenant ça a bien changé, j'ai connu l'époque où on n'avait que le sextant, il n'y avait que le soleil et les étoiles pour vous dire où vous vous trouvez. Hein. Mais moi, j'adorais ça, j'avais appris à apprendre à l'école centrale, comme avec les études d'ingénieur dont je n'ai jamais rien fait en fait, mais j'avais appris à apprendre et donc je m'étais... intéressé à ça. J'ai même réalisé par la suite un livre où j'explique comment une méthode simplifiée pour apprendre à naviguer avec les étoiles. Mais j'ai connu ça. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on a le GPS, on a des tas d'aides qui sont extraordinaires. Mais je suis content d'avoir connu l'époque plus dure.
Puis vous avez connu Tahiti en un temps où c'était pas facile d'accès. Bon, Jacques Martin y allait passer l'été, Jean Castel aussi. Mais sinon, il n'y avait pas beaucoup de touristes.
Il n'y avait pas beaucoup de touristes. Il n'y a toujours pas beaucoup de touristes. Hein. C'est pas Hawaï, Tahiti. Hein. Il y a un nombre de touristes tout à fait raisonnable, surtout si on va dans les îles lointaines, celles que je fréquente, celles où j'ai laissé mon bateau actuellement, celles où je viens de passer 6 mois et où je retournerai à Noël. À l'époque, c'était plus naturel, mais ça reste très naturel.
Il y avait une chanson d'ailleurs de Bourvil, Si t'as été à Tahiti.
T'as pas pu y aller à moto.
Exactement, qui a eu beaucoup de succès. Et aussi chantée par une jeune femme qui s'appelait Paola.
Oui, Paola.
Qui a fait 3 disques, qui a disparu après avoir fait les chansons d'une opérette absolument inconnue qui s'appelle Maria Flora. On a perdu toute trace et la chanson est devenue culte puisqu'aujourd'hui dans les discothèques de Jones, on chante Si t'as été à Tahiti.
Tahiti, t'as pu y aller qu'à moto, qu'à moto, qu'à moto. Qu'à bateau.
Vous avez fait des rencontres et vous avez rencontré Jacques Brel au cours de ce voyage.
J'ai rencontré très brièvement Jacques Brel au tout début. Le hasard a voulu qu'on parte à la même époque et on s'est retrouvé un jour dans un port. On a passé une soirée de Noël inoubliable dans un port des Canaries et puis lui est parti moi je suis parti vers le sud, vers l'Afrique et lui est parti vers les Antilles et a découvert le lieu où il a souhaité finir sa vie aux Marquises.
Et vous avez parlé navigation plutôt que chanson ?
Ah bah oui, on a parlé surtout de navigation.
Parce que la chanson ne l'intéressait plus.
Non, c'était pas bon. Il n'était pas en état d'enregistrer. Il m'avait expliqué une des raisons pour lesquelles il avait choisi de partir, d'arrêter de faire il avait quitté la chanson. C'est parce que il était tellement perfectionniste qu'une chanson pour lui, écrire une chanson, c'était 6 mois de travail à plein temps, la journée toute entière, quoi. Et que ça lui prenait la tête tellement qu'il ne voulait pas faire de chansons avant plusieurs années. Quoi.
Voilà. Vous avez continué à faire des chansons, et on va en reparler dans quelques instants, toujours dans votre vie de navigateur, avec une autre date importante dans votre vie, Antoine. C'est le 1er janvier 1987. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio avec Antoine, le navigateur.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Antoine. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs aussi chers à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date, 1er janvier 1987. Alors je vais vous dire, je vais vous aider, c'est une télévision d'outre-mer qui passe une chanson pour la première fois que personne n'a encore entendue et qui va devenir culte.
C'est en 1er janvier 87, ouais. Touchez pas à la mer.
Exactement.
Ah ouais,
jour-là, France O, ce qui est France O aujourd'hui, passe les premières images avant qu'un clip soit tourné de cette chanson.
D'accord, ben oui, c'était une chanson importante. Hein. C'est une chanson importante. Je suis arrivé en Polynésie, je suis retourné en Polynésie hein, avec mon troisième bateau, avec Banana Split. Et j'y suis arrivé c'était encore voyage. C'était encore le deuxième bateau, là. Et je suis arrivé dans des lagons comme ça, et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement magnifique. C'est la première fois que j'ai pu passer du temps dans cet archipel qui, depuis, est devenu ma résidence, qui est l'archipel des Tuamotu. Et c'était tellement beau que j'ai pensé qu'il fallait montrer la beauté et en même temps dire qu'il fallait protéger, quoi. Et quoi de mieux que de dire avec une chanson. Et cette chanson, elle existe toujours, Touchez pas à la mer, je la chante fréquemment. Et on a créé un site internet qui s'appelle touchezpasalamer.org où on peut, les professeurs de chant, les chorales, tout ça peuvent télécharger gratuitement la chanson, le playback et les harmonies et les partitions. Et l'idée, c'est que plein de gens, plein de, plein de public, les enfants, beaucoup d'enfants en particulier, apprennent cette chanson et la chantent. Et comme ça, un jour, peut-être, s'ils ont à faire un choix entre protéger la mer ou ne pas la protéger, ils diront dans leur tête « touchez pas à la mer » et ils feront ce qu'il faudra.
Et cette chanson, Antoine, est née en quelques heures.
Elle est née en quelques heures, mais les chansons, souvent les chansons, elles naissent en quelques heures. Je lisais le livre de Renaud, mon camarade Renaud, qui expliquait que tout d'un coup, une chanson, ça lui est dicté, quoi. On ne sait pas d'où ça vient, les chansons.
Si vous étiez dans une île, vous êtes mis devant l'ordinateur et c'est venu comme ça.
Voilà, je suis parti. Je ne savais pas du tout ce que j'allais dire. J'avais une phrase qui est venue, « Touchez pas à la mer ». Et puis c'est arrivé d'un seul coup. Quoi.
Et l'écologie n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que « Touchez pas à la mer », ce n'était pas d'actualité.
On en parlait déjà, on en parlait un peu. Mais
pas autant.
Mais c'était... je n'étais pas un pionnier quand même. On parlait déjà d'environnement.
Oui, mais pas autant qu'aujourd'hui.
Pas autant qu'aujourd'hui.
Alors, le problème, c'est que la chanson a été écrite, a été enregistrée, mais personne n'en voulait au départ. Personne n'y croyait.
Oui, moi, j'y croyais, moi. J'y croyais, moi. C'était,
mais il a fallu convaincre les maisons de disques de la sortir.
Oui, mais je dois dire que le comment il s'appelait ce garçon de
Philippe Constantin.
Philippe Constantin, qui était un garçon extrêmement talentueux, un directeur artistique qui nous a quittés trop tôt, d'ailleurs. Et il a été passionné par cette chanson. Il a été passionné par la chanson et c'est lui qui a fait enregistrer une chorale d'enfants avec moi, etc. Et qui a été pour beaucoup dans le succès de la chanson.
Car ça a été un immense succès qui a également signé votre retour à la scène dans un cabaret parisien qui s'appelait La Nouvelle Ève, Antoine.
En présence de Jacques Pessis.
C'est vrai.
En présence de Jacques Pessis, c'était Antoine retrouve les problèmes.
Oui.
Les musiciens qui m'avaient accompagné dans ma jeunesse.
Comment ça s'est fait? Comment est née cette idée de faire La Nouvelle Ève, qui est un cabaret un peu particulier, et les problèmes avec Antoine?
C'était un simple hasard. Une amie qui habitait dans le quartier de Pigalle, là-bas, m'a emmené un soir dans ce cabaret. Et puis, il y a un gars, un des animateurs, c'était un cabaret qui avait une époque, l'époque très dépassée, quoi, l'époque des Folies Bergères et tout ça, avant même, enfin, l'époque des années 30, 40, 50, je ne sais pas. Et puis, il était devenu très à la mode tout d'un coup, ce gars. Le gars, il s'appelait Albert, un animateur.
Oui, Albert.
Albert, et il vient me voir, il dit « Tu ne ferais pas un truc, une soirée ?» Je dis « Ben oui, voilà. » Et là-dessus, j'étais tombé par hasard sur un des problèmes qui avait disparu, un des musiciens des problèmes qui avait disparu, qui avait raté la transformation. Mes musiciens, voilà, vous le savez peut-être, mes musiciens s'appelaient les problèmes.
Bien sûr.
Étaient devenus les Charlots.
Voilà.
Les Charlots, mais lui, il était parti au service militaire, il n'avait pas été Charlot. Et je tombe sur lui. Et tout d'un coup, ça m'a donné l'idée. J'ai appelé les problèmes, j'ai appelé Louis Régaud, Gérard Rinaldi, tout ça. Et ils sont venus jouer avec moi. Et on a même joué à l'Olympia,
oui,
deux mois plus tard.
Quoi. Oui, et ça a été fabuleux. C'était plein, c'était une grande soirée.
C'était marrant, oui, c'était super.
Et La Nouvelle Ève, à l'époque, c'était effectivement un lieu à la mode. Mais juste avant, c'était un cabaret où il y avait eu... C'était un sous-moulin rouge, sous
voilà,
l'eau. Et il y avait eu un dîner de première absolument hallucinant où tout le dîner était congelé. C'est-à-dire ça venait d'une marque très célèbre et ça avait à peine été réchauffé et ça avait fait un grand scandale. Et le patron qui c'est une sorte de Eric von Stroheim avec son monocle et qui vivait dans le quartier, avait menacé les journalistes en disant « Vous le payerez cher, je faisais partie du lot d'ailleurs, mais on est toujours là et il n'est plus là. » Et c'est devenu effectivement un lieu branché avec cet Albert de Paname qui organisait des soirées de discothèque avec deux débutants qui croyaient en leur avenir, qui s'appelaient Danny Briand. Et
oui.
Fabrice Lucchini,
oui,
que personne ne connaissait.
Ah, dis donc, c'est pas mal. Hein.
Alors, après cet Olympia, vous avez songé à ne pas repartir, Antoine, ou alors est-ce que...
Oh non, c'était... J'étais 87, j'étais déjà en train de construire mon troisième bateau, donc le catamaran Banana Split, qui est mon bateau et ma maison, en fait, depuis 28 ans maintenant.
Et vous avez failli faire une chanson avec Florence Artaud.
Oui, ça, c'était une... j'avais écrit une autre chanson un peu plus tard qui racontait un peu les réflexions d'un marin faisant la course, le tour du monde en solitaire. J'en ai marre de me faire rincer, de prendre des vagues sur la gueule. Et j'en ai marre de naviguer tout seul, de me retrouver tout seul. Et tout d'un coup, je me dis, cette chanson, ça serait bien que je l'enregistre avec Florence Artaud. Alors, je téléphone au père de Florence, qui était un éditeur, qui avait édité mes premiers livres, et je vais pour lui parler, lui proposer d'enregistrer avec Florence. Et première phrase qu'il me dit, on chante maintenant, en parlant de sa fille. Quoi. Je dis, qu'est-ce que c'est? Oui, ben elle venait d'enregistrer un disque avec
Pierre Bachelet,
voilà.
Et c'est comme ça que le disque ne s'est pas fait.
Flo,
tout simplement, voilà. Qui a été un gros succès.
Qui a été un énorme succès.
Et aussi. Donc, vous avez dû renoncer à ce duo avec
voilà,
elle.
Voilà. Par contre, j'avais enregistré cette chanson qui s'appelait L'île bleue avec quatre choristes qui étaient Philippe Poupon, Loïc Perrand, Titouan Lamazou et un quatrième. Voilà.
Vous les croisez souvent, ces navigateurs, ces champions?
Fréquemment. L'autre jour, j'étais en Polynésie. J'étais en Polynésie chez un ami qui m'a invité à boire un verre un soir. Et il y avait Titouan Lamazou qui était là. Titouan Lamazou qui prépare une nouvelle exposition fabuleuse de ses dessins et qui venait de passer des semaines aux Marquises.
Et vous n'auriez pas pu faire, vous, une course en solitaire, un trophée?
Non, moi, je ne suis pas du tout. Hein. Moi, dans la vie, il y a ceux qui aiment l'adrénaline. L'adrénaline, c'est ce qui fait quand on est en déséquilibre, qu'on va tomber, qu'il y a de la violence, etc. Et, tout. Et puis, il y a ceux qui aiment l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'autre hormone. L'autre hormone, c'est l'hormone de la douceur. De la douceur. Et moi, je suis ocytocine, je ne suis pas adrénaline.
Oui, et à bord, vous passez votre temps à lire, à écrire, des journées entières à flâner.
Ah, souvent, des journées à, je ne dirais pas à ne rien faire, parce que sur un bateau, il y a de quoi occuper un jeune homme, à faire entretenir le bateau, à faire des tas de choses. On écrit nos livres, on fait nos photos, on fait nos montages et tout sur le bateau. Donc, c'est pas une vie de... Mais on choisit un rythme paisible. On va faire le tour de notre île, faire se promener, nager, plonger. On essaie de garder un contact avec la nature, même si, à la fin, on se retrouve avec des ouvrages à promouvoir, comme aujourd'hui, un livre, un film, etc.
Et pas seulement, parce que ce côté, justement, tranquille, on va en reparler dans quelques instants, ça n'a pas toujours été le cas à travers une autre date, le 24 janvier 1992. À tout de suite sur Sud Radio avec Antoine.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Antoine. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date. 24 janvier 1992, ça ne vous dit rien. Alors je vais vous aider, c'est une émission de télévision qui pour la première fois passe des images d'Antoine, mais pas le chanteur, mais le navigateur dans les îles lointaines. Une émission s'appelle Giga.
Eh oui, ah oui, d'accord, c'était Giga. Oui, c'était en 91, je suis parti faire un tour du monde, mais pas en bateau, mais par tous les moyens de transport, y compris un éléphant et une montgolfière. Et j'ai ramené mon premier film, mon tout premier film, que j'avais produit tout seul. J'avais demandé à personne. Enfin, personne m'avait dit on va le produire pour vous, etc. Aucune chaîne, etc. J'ai réalisé et je l'ai apporté à France 2, la directrice de France 2 des programmes de l'époque, et elle, Marie-France Brière, c'était, voilà, je recherchais. Et elle m'a acheté le film que j'avais produit moi-même avec mes moyens, avec ma petite caméra, etc. Et c'est vrai que c'est passé en une émission quotidienne. C'était en 20 épisodes dans cette émission de l'après-midi pour la jeunesse, c'est ça?
Ça, ça s'appelait Giga. Et les premières images, c'est à Bali, justement.
Voilà.
Et on voit sortir d'une maison, sur pilotis en hauteur. C'est assez étonnant.
Oui, c'était mon premier film que j'ai réalisé et j'ai tout appris. J'ai tout appris là, j'ai appris à faire le montage avec un monteur, mais un ami monteur de réalisateur qui m'a donné des conseils, etc. Et on a fait notre tout premier film qui s'appelait Amoureux de la Terre.
Et pourquoi justement avoir choisi de faire des images de films? Parce que personne ne le faisait, vous l'avez fait bien avant Carlos, bien avant Géraldine Danon, bien avant d'autres.
Oui, mais j'avais été filmé beaucoup dans des émissions de télévision et j'avais envie de réaliser moi-même. Et puis le voyage, c'était tellement beau. J'avais eu un succès énorme deux ans avant, vraiment un des plus beaux succès de ma vie, avec un livre paru chez Gallimard qui s'appelait « Il était une fois », qui a démarré toute la série de films qu'on réalise maintenant, quoi. Et « Il était une fois » était un tel succès que Gallimard m'a demandé de faire un deuxième livre. 2 ans plus tard. Et c'est pour ça que je suis parti faire ce tour du monde, pour faire des photos. Et au dernier moment, un copain me dit « Et si tu partais avec une caméra ? Il y a des nouvelles caméras avec des petites cassettes et tout. » Et j'ai filmé comme ça pendant 80 jours autour du monde.
Et ce n'était pas les caméras d'aujourd'hui quand
même.
Ah
non, c'était des petites caméras HI8, c'était avec des petites cassettes et tout.
Et il n'y avait pas de DVD, c'était encore le début du VHS.
C'était le début des VHS, oui.
Parce que le VHS, au départ, en 1956, c'est né au Japon. Ça coûtait à l'époque 50 000 dollars, c'est quand même très cher.
Ouais, ouais.
Dans les années 70, on a décidé de démocratiser tout ça, de faire autre chose. Mais il a fallu attendre 1978 pour qu'en France, on découvre les premiers VHS qui étaient sortis au Japon 2 ans plus tôt. Et aujourd'hui, ça paraît complètement dépassé.
Voilà, et cette cassette VHS qui était sortie chez, je ne me rappelle plus la maison, il se trouvait qu'au même moment, ça a été un succès incroyable parce qu'ils espéraient en vendre quelques milliers, ils en avaient vendu 25 000 en un mois. Et en concurrence, dans la même maison, il y avait une autre personne qui avait fait un film, enfin, il n'avait pas lui réalisé, c'était Johnny qui avait traversé l'Amérique à moto. Voilà. On se retrouvait de nouveau en concurrence.
Comme au temps des élucubrations.
Et longtemps avant les lunettes.
Et longtemps avant. Alors, il y a aussi l'histoire d'Il était une fois dont vous avez parlé, parce que ça aussi, ce livre est né par hasard, par exemple, sur une photocopieuse près des Champs-Élysées.
Oui, c'était, c'était une. À l'époque, j'avais eu l'idée de faire un livre de photos. J'avais encore jamais publié un livre de photos. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur un père, la rencontre d'un directeur artistique, d'un éditeur formidable qui nous a quittés aussi, qui est décédé depuis, Pierre Marchand, qui a révolutionné l'édition pour la jeunesse et qui m'a fait toute confiance. Et je lui ai amené une maquette, donc, avec mes photos, faite une photocopieuse aux Champs-Élysées. D'ailleurs, je dois dire pour la petite histoire qu'à l'époque, je logeais chez notre ami Jacques Pessis.
Oui, voilà. Ça, c'est pour la petite histoire.
Je logeais, il a été le tout premier à voir ça. Et l'idée, d'ailleurs, le nom de Il était une fois est né ensemble de nos conversations.
C'est vrai.
Et on avait envisagé de faire des films dès cette année-là, et ça ne s'est passé que quelques années plus tard.
Et vous les avez fait très bien, parce que finalement, vous avez fait 14 films qui sont aujourd'hui complètement cultes, Antoine.
Oui, oh, mais maintenant, il y en a eu 14 de la première série, mais maintenant, on en est à 32. Le film sur Cuba que nous publions maintenant, un film sur Cuba,
on va en parler tout à l'heure.
Eh bien, c'est le 32e, le 32e qu'on est produit et enregistré.
Et avec des moyens techniques qui se sont considérablement améliorés.
Ben, c'est-à-dire que la technologie, c'est formidable, ça fait des progrès incroyables. On fait des images qu'on projette en tournée sur des écrans de 16 mètres de base, quoi, avec des caméras qui sont toutes petites maintenant. Quand je dis toutes petites, l'iPhone 7, par exemple, certains smartphones actuels permettent de faire des images en 4K d'une qualité incroyable. Alors, quand on pense la définition qu'on avait avec les grosses caméras de l'époque, ça fait un peu rigoler quand même.
Et puis ça, vous avez tout appris. C'est-à-dire que sur Internet, le film, le montage, vous êtes retourné à l'école de la technologie, Antoine.
Oui, ben là, la dernière nouveauté, c'est la dernière passion, c'est le drone, là. J'ai acquis un drone maintenant, un drone que je pilote. J'ai déboussiéré ma licence de pilote, mais je pilote et je filme. Et dans les tournées de conférences, là, je rajoute chaque année des nouvelles images qui ont été faites avec le drone, entre autres.
Est-ce que c'est le secret de votre jeunesse éternelle, de vous renouveler sans cesse?
Ah ben, je pense, oui, j'espère. On est passionné. Je suis retraité, mais passionné. Je continue à faire des images, à faire des voyages.
Oui, surtout que vous avez tout fait avec des petits moyens. Le premier film, c'était tellement difficile de trouver de l'argent que vous avez fait vous-même les commentaires.
Ah ben, j'ai tout fait. De toute façon, oui, au début, j'aurais peut-être pu aller chercher si ça avait été fait par une maison d'édition ou une chaîne de télévision. Canal+ m'avait proposé, après le succès du premier film, m'avait proposé de signer avec eux, de faire, mais j'aurais pas été libre de faire ce que je voulais. Moi, j'aurais envoyé un bouquet de fleurs en disant, les dames qui dirigeaient, qui avaient fait cette proposition, j'ai dit, c'est très gentil, mais je vais faire mes films moi-même, quoi.
Voilà. Et vous avez filmé des lieux qui n'étaient pas aussi accessibles pour le grand public d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, beaucoup de gens vont en vacances aux Seychelles, à Noël. Vous avez tourné ces films et diffusé ces films en un temps où c'était pas si fréquent.
Ah oui, c'est vrai. Bon, maintenant, on voyage de plus en plus facilement. Mais ce qui m'importait, c'était vraiment que les lieux soient beaux, quoi. J'ai jamais essayé de faire des choses trop extrêmes, des documentaires ethniques, chercher des lieux où personne ne peut aller. Je dis toujours que le choix dans ces films, j'y suis de temps en temps, on monte de temps en temps pour que les gens se disent « Ah ben si, ce grand couillon d'Antoine, il est sur cette plage, eh ben, je pourrais y être moi aussi. »
Oui, et ça fait envie, on voit dans une cascade en train de prendre une douche avec la cascade, des tas d'images extraordinaires. Et vous arrivez quand même à vous filmer et à garder ces moments pour vous.
Oui, c'est avec ma compagne, là, on a de la chance. J'en suis venu de faire ces voyages, quoi. Parce qu'on voyage avant tout pour notre plaisir. Et puis, mais chaque minute de ce plaisir est augmentée parce qu'on l'immortalise avec des photos. Elle fait des photographies et moi, je filme. Donc, ça décuple la qualité du bonheur du voyage.
Alors, parmi ces films, il y a La Réunion, il y a les Seychelles, il y a l'île Maurice.
Oui.
Vous avez connu l'île Maurice avant que les touristes déferlent, justement.
Oh, c'était déjà longtemps que l'île Maurice est connue depuis très
longtemps. Oui, mais enfin, c'était pas aussi fréquent qu'aujourd'hui.
Oui, mais même dans les endroits où le tourisme est abondant, je suis toujours à la recherche de ce qui est bien protégé, bien joli, bien naturel. Quoi.
Et il y a encore des sites protégés
partout,
Maurice, aux Seychelles.
Partout, mais y compris à Paris. Là, pour venir vous rejoindre au studio de Sud Radio, là, j'étais au tournage de l'émission de, comment ça s'appelle, les Grands du Rire,
oui.
Avec Yves Lecoq, et j'étais au sud, dans le sud de Paris, et je suis venu à pied, en traversant le parc Javel, là, le parc de... Voilà, c'est ça, le parc Javel,
oui.
C'est ça. Voilà, et c'était merveilleux. Tout à l'heure, c'était beau comme la Polynésie, avec voilà. Le soleil qu'on a aujourd'hui.
Et pas de voiture, et merci Madame Hidalgo. Ça, c'est vraiment le problème. Alors, il y a aussi, moi, j'ai découvert un jour, une fois où je suis allé à l'île Maurice, sur la plage, il y avait l'attraction des touristes, un vendeur de bricoles, qui était le sosie d'Henri Salvador.
Ah, tiens, oui.
Et ça, il a fait sa vie là-dessus. Il imitait Henri Salvador, il vendait tout ce qu'il avait. Je ne sais pas si vous avez connu ce personnage.
Ah non, je n'ai pas connu, non.
Vous avez connu des personnages insolites dans vos voyages aussi, beaucoup?
Oh oui, j'en rencontre plein. Là, à Cuba, on a vu un gars qui est dans le film. C'était un cracheur de feu. Un cracheur de feu dans... On va en parler tout à l'heure, mais il y a de la musique partout. Quoi. On rentre dans une grotte, il y a de la musique, on va n'importe où, partout. Et là, il y avait un cracheur de feu, sur un rythme de salsa, et là, qui dansait et tout. Et lui, il se mettait le feu dans la bouche, sur la peau, et dans le pantalon.
C'était incroyable.
On voyait les flammes à travers son pantalon. C'était assez curieux.
Ouais, il s'en sortait à chaque fois.
Il s'en sortait
sans
à chaque fois.
Pompier.
Et tout ça en musique et en rythme et en dansant.
Et alors, vos films sont devenus des classiques. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, on les enseigne dans les écoles, Antoine ?
Oh, je ne sais pas si on les enseignera dans les écoles, mais je pense qu'il y a des... Il y a des... En particulier, je parlais de Touchez pas à la mer. On a fait des belles images, un tour du monde qu'on avait réalisé avec ma compagne pour aller faire dire et chanter à des tas de gens « Touchez pas à la mer ». Et ça, bon, il y a des écoles, beaucoup d'écoles qui ont consulté ce site, consulté ces images et enregistré la chanson d'ailleurs.
Et beaucoup de gens s'inquiètent aujourd'hui de l'avenir du monde en disant « le monde est foutu, la pollution va tout détruire ». Vous qui voyez le monde tel qu'il est, qu'est-ce que vous en pensez, Antoine ?
Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont inquiétantes. Vous avez vu les cyclones actuellement, la canicule, le corail souffre horriblement, y compris là-bas où on est. Hein. La nature a des gros problèmes actuellement. Moi, j'essaye toujours de montrer la beauté. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de beauté à montrer, mais il faut quand même montrer la beauté.
Voilà. Et il y a encore des coins de beauté à découvrir ?
Ah oui, partout. Il y a des coins, et puis la richesse humaine. Là, bon, on parlait de Cuba, j'étais en Birmanie, en Patagonie, partout, en Polynésie, bien sûr. Il y a des rencontres à faire, et puis la beauté toujours.
Et là-bas, on vous reconnaît, on sait que c'est Antoine le chanteur ou vous êtes anonyme ?
Oh, pas dans les... je suis mondialement célèbre dans les pays français, c'est
oui.
Tout, dans les pays francophones. Mais à Tahiti en particulier, en Polynésie, mes films passent sur la chaîne locale qui s'appelle TNTV, tous les documentaires. Ici, actuellement, si vous voulez voir, on les voit régulièrement sur TV5 Monde actuellement. Et là, ils passent régulièrement et même dans les îles les plus reculées, où les gars vont faire récolter le copra et rien d'autre, eh ben, quand ils me voient, ils sont adorables avec moi. Ils sont d'une gentillesse et ils parlent tous des « allez, reportage, c'est bien là
». Et votre bateau se trouve actuellement à Tuamotu, je crois.
Au Tuamotu, oui, dans l'archipel des Tuamotu.
Voilà, et c'est toujours Banana Split ?
C'est Banana Split.
Et pourquoi Banana Split ? On ne l'a jamais su.
Ben, c'est parce qu'il fallait que je trouve un nom. Il était déjà jaune avant d'avoir un nom, mon bateau. J'avais déjà peint en jaune. Et pour le mettre à l'eau, il fallait trouver un nom d'urgence. Quoi. Alors, le directeur du chantier vient me voir. Alors, comment on l'appelle ? Comme pour faire remplir les papiers, pour immatriculer le bateau. Et moi, je ne savais pas, je n'avais pas encore trouvé d'idée. Alors, je me suis assis devant le bateau, j'ai dit, j'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, maintenant tu me dis ton nom. Et ça s'est mis à tourner dans ma tête, et toutes sortes de noms sont venus, jaune, jaune, banane, banana boat, banana rama, et puis banana split, voilà. J'ai appelé Lio aussitôt, je lui ai dit, veux-tu être la marraine ? Elle m'a dit oui, voilà, elle est la marraine de banana split.
Et cette chanson d'ailleurs, elle a une histoire, banana split, c'est-à-dire que c'est le premier fan de Lio est un ami de sa mère, qu'elle a connu à l'âge de 8 ans, Lio. C'est un ex-objecteur de conscience qui s'appelait Jacques Duval. Il vient le Pygmalion, il fait enregistrer Banana Split par Lio, qui avait 15 ans, et aucune maison de disque n'en veut. Finalement, il produit le disque en Belgique, sous le pseudonyme de Lio, parce que ce n'était pas son vrai nom, et puis en 3000 en Belgique. Un petit succès. Et le disque passe en France, et il va s'arracher à 1 million d'exemplaires. On ne sait pas pourquoi exactement, comme Touche pas à la mer.
Oui, ça m'a amené à rencontrer Lio dans une émission de radio sur France, hein, sur euh, France RTL ou France Inter.
France Inter, Sud Radio. Oui.
C'était Sud Radio. C'était avec Thierry Leluron. Ah. Thierry Leluron et ça allait pas du tout parce qu'on se moquait d'elle, les gars se moquaient d'elle, c'était un peu des gros balourds, des relous, des gros machos et tout, et qui se moquaient d'elle, de la gamine qui disait nanana, banana split et tout, et lui avait fait dire un texte, il lui avait demandé dans un espèce de feuilleton qu'il jouait de lire un texte qu'elle aimait pas du tout, et elle avait 17 ans, elle était déjà montée sur ses ergots, non pas question, etc. Et elle allait partir, elle était folle de rage et tout, et moi je lui ai dit écoute, laisse tomber Lio, prends. C'était en direct. Hein, on va faire. Je lui ai donné le texte que j'étais censé lire et elle m'a donné le texte qu'elle était censée lire. Et j'ai joué Lio et elle a joué le navigateur solitaire. Elle a dit capitaine, nous allons encaisser un sale coup de temps et tout. Voilà, elle faisait le capitaine et moi je faisais na 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 na.
Et voilà, comme quoi vous avez remplacé Lio, mais comme Thierry Leluron, vous êtes demeuré inimitable.
Enfin, ouais, inimitable.
Alors dans quelques instants, on va se retrouver pour parler justement d'une double actualité, notamment un film sur Cuba que vous avez évoqué, puis un agenda. Dans quelques instants, on se retrouve sur Sud Radio avec Antoine.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
7 octobre 2017, vous êtes sur Sud Radio, ce sont les clés d'une vie, les clés de mon invité que vous retrouvez avec plaisir entre deux voyages, Antoine. Et cette date, je la donne parce que c'est celle de la sortie d'un agenda 2018. Vous êtes toujours en avance sur votre temps, Antoine. Cet agenda 2018, c'est une année autour du monde. Comment est née cette idée ?
Eh bien, j'ai le bonheur, comme je te disais, d'être édité par Gallimard, le plus grand éditeur en France, depuis 25 ans maintenant. On a publié, je ne sais pas, une quinzaine de livres. Et cette année, l'année dernière, c'était un livre qui s'appelait Escale en Polynésie. Ça sera sans doute l'année prochaine Escale aux Caraïbes. Et entre-temps, plutôt que de faire une pause, ils m'ont dit, ça ne vous dirait pas de faire un petit agenda ? Je dis oui, mais alors, on le fait à ma façon. C'est-à-dire que j'emmène pendant un an les utilisateurs de l'agenda chaque semaine dans un endroit différent. Voilà, c'est-à-dire que dans une semaine, vous avez de l'agenda, vous avez de quoi noter vos rendez-vous, etc. Mais vous avez avant tout des photos, de faire une pause tout d'un coup dans un quotidien qui peut être un peu gris. Et des photos, plein d'images et tout, et même des liens vidéo, des liens
avec
un flashcode, voilà, pour trouver des extraits de nos films sur ces régions-là. Alors, chaque semaine, un endroit, c'est bien, des endroits comme la Polynésie, comme la Patagonie, etc. Mais il y a aussi des lieux plus précis, plus proches, quoi, comme la Bretagne ou la Méditerranée.
Alors justement, bon, c'est un agenda qui ne donne pas envie de travailler, plutôt de partir en vacances, d'avoir des super RTT. Alors, vous expliquez où partir chaque mois. Par exemple, en mars, il faut partir aux Maldives. Pourquoi, Antoine ?
Voilà, en plus, on finit par avoir une connaissance des saisons. Il y a des saisons qui sont bien, parce qu'il ne pleut pas beaucoup, il ne fait pas trop chaud, et ainsi de suite. Donc, c'est important d'indiquer. En fait, c'est la question que les gens me posent. Quand je suis en tournée de conférence avec Connaissance du Monde, que je parle des îles de l'océan Indien ou de la Polynésie, eh bien, en général, ou de Nouvelle-Calédonie, la question que les gens me posent immanquablement, c'est quelle est la meilleure saison pour y aller. Donc, on a choisi, par exemple, pour la première semaine d'octobre, eh ben, c'est le Québec, parce que c'est le moment où l'été indien, juste avant l'été indien, quand il y a les couleurs, on va voir le Québec.
Donc, alors, vous aimez le Québec, vous êtes souvent allé au Québec.
Oui, j'adore le Québec, c'est un très, très beau pays.
Et c'était le lieu, dans les années 50, des grands chanteurs français. Il n'était pas concevable qu'un chanteur comme Charles Trenet ou que Édith Piaf, que chanteuse ou Montand, ne passe pas au Québec. Ça faisait partie des choses obligatoires.
Moi, j'ai fait ma première tournée au Québec. Je la faisais avec un... La promotion se faisait avec un autre chanteur français qui jouait là-bas, qui jouait le Certain Lame Show.
Oui.
Voilà. Et c'était Georges Guettari.
Exactement.
Grand chanteur un peu oublié, mais
qui a roi de l'opérette.
Une immense vedette aussi. Hein.
Oui, il jouait Certain Lame Show comme il a joué La Route Fleurie et beaucoup d'opérettes. Et il a été, jusqu'à ses dernières années de sa vie, un maître du genre avec Luis Mariano, avec une voix. Il était grec, il était arrivé à Paris par hasard. Et il a rencontré Francis Lopez et il a été le partenaire de Bourvil, d'Annie Cordy, qui l'a fait débuter à la scène. Ça a été, et c'est quand il était au Châtelet pendant 3 ans avec la polka. C'était certainement chaud, c'était cette pièce-là. Il a fait 3 ans complet au Châtelet. Qui peut imaginer ça aujourd'hui?
Oui, c'était une autre époque.
Ça s'appelait la Polka des Lampions.
On parlait de Francis Lopez, je revois la silhouette de Anja Lopez, sa femme, oui. La pulpeuse Anja Lopez.
Couverte de bijoux, mais c'est une autre époque. Vous dites aussi qu'il faut aller en Bretagne en juin, Antoine.
C'est la saison, il fait beau, il n'y a pas encore trop de monde, et puis c'est très joli, c'est très vert, c'est très agréable. Puis la Bretagne, je dis que c'est bien d'aller au bout du monde, mais juste déjà, si on n'a pas plus que quelques jours ou un faible budget, vous prenez un quart Macron, par exemple, et vous allez passer 3 jours dans une des îles qu'on a la chance d'avoir en France, et vous en reviendrez changer. Vous allez à Groix ou Yeux, etc. On en revient changer parce qu'on s'aperçoit qu'il y a autre chose que la ville et le quotidien, quoi. On voit que même tout près, comme ça, les gens vivent différemment. Le rythme est différent, les préoccupations sont différentes. Et pourtant, c'est la France. Alors, c'est bien le bout du monde, mais il y a aussi des endroits proches comme ça, qui veulent des petites îles en Méditerranée. La Corse, qui est magnifique, les îles grecques, les îles italiennes, à quelques, bah, une heure ou deux de vol, quoi.
On ne se rend pas compte quelquefois. Bon, on peut aller aux Maldives en juillet, comme vous le dites, mais on peut aller aussi beaucoup plus près.
Oui, bien sûr, on peut l'être. On s'est vraiment penché sur les saisons, on essaie de bien refléter, par exemple, le Japon. Le Japon, ces dernières années, j'ai fait 3 voyages au Japon, et il y en avait un qui était choisi, qui était juste, je ne vais pas dire de bêtises, avril à peu près, et c'était la saison des cerisiers, quoi. Qui c'est une chose inouïe là-bas, ça s'appelle le hanami, et des milliards de cerisiers sont en fleurs partout, quoi. Alors, c'est une vague qui monte, qui commence au sud, qui commence tout à fait au sud de Kyushu, et qui monte comme ça jour après jour, et qui monte jusqu'en haut du Japon, qui est tout d'un coup repeint en rose, quoi. Les gens font la fête, ils vont manger, ils vont pique-niquer sous les cerisiers. C'est le hanami, c'est bien bon. Donc, il y a plein d'anecdotes comme ça, plein de rencontres avec la beauté de la nature et avec l'intérêt, la passion des gens.
Et les animaux, il y a un encadré où on voit un pingouin. Et ça, c'est important pour
les
pingouins.
Oui, c'est un pingouin. Parce que les gens veulent appeler ça un manchot, mais moi, j'appelle ça un pingouin, comme le reste du monde, d'ailleurs.
Et comme la chanson qui a représenté l'Eurovision au Luxembourg, c'était une époque où les chansons pour le Luxembourg étaient forcément en français. Ça a été valable jusqu'en 89. Et ces deux sœurs jumelles, Sophie et Magali, qui avaient été quatrième avec le papa pingouin, qui a été fredonné dans toutes les familles par tous les enfants. Malheureusement, ensuite, la chanson est sortie en Allemagne et elles sont tombées sur un producteur qui les a escroquées. Ah. Le disque s'est vendu à 1 million d'exemplaires et elles ont touché 800 euros en tout et pour tout.
Parce que
les parents ne savaient pas vraiment lire un contrat.
Ça arrive, oui, ça arrive.
Ça peut arriver. Alors, vous allez aussi faire des conférences. Là, vous êtes de nouveau en France pour une série de conférences avec Conférence du Monde.
Connaissance du Monde.
Ça aussi, c'est important pour vous, Antoine. On n'imaginait pas, voici quelques années, Antoine faisant une conférence pour Connaissance du Monde.
Ah ben moi, j'ai assisté à ma première conférence Connaissance du Monde quand j'avais 10 ans. C'était un film sur Tahiti. Et depuis 10 ans, je présente... quand j'avais 10 ans, c'est-à-dire quoi, il y a 30, 40 ans à peu près, quoi, voilà. Et je présente actuellement un film sur la Polynésie, sur les îles lointaines, sur Tahiti.
Et pourquoi à 10 ans vous étiez allé à une conférence?
Mon père m'avait amené voir ça, un film sur Tahiti, parce qu'on devait partir pour Tahiti, voilà. On devait partir pour Tahiti, on n'est jamais allé finalement, avec ma famille. Mais c'est Connaissance du Monde, ça a toujours existé pour moi. Et quand ils m'ont demandé, il y a une dizaine d'années, si j'étais intéressé à venir faire partie de cette belle équipe de conférenciers, de voyageurs, j'ai tout de suite dit oui. Et j'ai présenté plusieurs films, j'ai fait des centaines de conférences avec Connaissance du Monde. Là on en fait du 8 novembre au 8 décembre, on en fait une quarantaine.
Et Connaissance du Monde est née juste après la guerre, et le premier conférencier, ça a été Paul-Émile Victor, présenté par le commandant Charcot. Il racontait une expédition qu'il avait fait au Groenland en février 1943.
Et oui.
Et alors, cette conférence...
Il y a eu aussi les Mahusiers, qui étaient des célèbres voyageurs.
Il y a eu beaucoup, beaucoup, Maurice Herzog, beaucoup de gens ont fait des conférences à Connaissance du Monde, et vous assurez la relève avec un film qui change chaque année, Antoine.
Voilà. Alors, ce film sur la Polynésie, comme je suis très souvent en Polynésie, avec ma compagne, on adore cette région-là, et avec des caméras nouvelles, des technologies, le drone en particulier, j'en parlais tout à l'heure, on ramène des images et puis j'en rajoute. C'est un film vivant, en quelque sorte. Le film que j'ai présenté l'an dernier, c'est pas le même que celui que je présenterai cette année, quoi. Il y a des choses nouvelles qui viennent et ils tiennent compte aussi de l'évolution. La cathédrale qui a été rénovée, un nouveau bateau qui arrive dans les archipels, etc. Donc, C'est un film vivant. Ils sont, si vous prenez la, si vous avez la chance d'aller un jour en Polynésie, en particulier avec la compagnie aérienne locale, c'est Air Tahiti Nui, et ben, tous nos films, tous les films qu'on produit sur la Polynésie et d'autres sont diffusés dans les avions. Comme ça. Voilà,
alors, ce film, justement, sur Cuba qui vient de sortir, Cuba, c'est une fête, peut-être qu'il sera dans les avions, mais pour l'instant, il sort en DVD. Et c'est un nouveau film sur Cuba où vous allez régulièrement depuis 30 ans.
Voilà, j'ai renoué avec une vieille habitude. Mon premier voyage à Cuba date de 1968. J'étais parti faire un reportage pour Salut les copains, une série de reportages photos qui s'appelait Bon baiser 2. On emmenait chaque fois Johnny ou Sylvie Vartan ou Claude François faire des photos dans tous les coins. J'étais allé, moi, pour Salut les copains, j'étais allé en Grèce et là, j'étais parti pour Cuba. Et c'était en 68, c'était l'époque où il fallait que tout le monde était envoyé couper la canne à sucre dans les champs parce qu'ils avaient besoin de devises et tout. C'était le début d'une période et il y a eu une très longue période difficile. Et puis, le tourisme est revenu et c'est vrai que là, on est parti. C'est vraiment le moment d'aller à Cuba, quoi. On est parti, non pas en bateau, mais j'ai choisi un mode de transport très différent, une vieille voiture. Une voiture qui font partie du patrimoine cubain maintenant. Une vieille voiture américaine de 1958, grosse voiture américaine, et avec un chauffeur adorable, on est parti de l'extrémité est de l'île et jusqu'à l'extrémité ouest, en visitant toutes les merveilles d'abord naturelles, et puis également les merveilles historiques, quoi. La ville de Santiago de Cuba, Trinidad, il y a des choses. L'île a un passé fabuleux, quoi.
Et un futur, on dit que Cuba a changé.
Eh ben, dans le futur aussi, je pense, je l'espère, parce que il y a une réouverture de Cuba de plus en plus, et surtout, il y a des lois qui permettent aux Cubains. Vous savez qu'à Cuba, le salaire moyen, le salaire de travailleurs, c'est 18 dollars. Par mois, c'est-à-dire pas terrible. Mais maintenant, ils ont le droit de faire ce qu'ils appellent les casas particulares, c'est-à-dire la façon la plus parfaite de visiter Cuba, aller loger chez l'habitant. Parce que ça aide l'économie de la famille, d'une famille, ça va directement, c'est pas de l'argent qui va se perdre dans des hautes sphères. Et les gens, ils sont adorables, ils vous reçoivent, ils ont une soif de rencontrer le monde extérieur dont ils ont été très longtemps privés. C'est merveilleux, tout ça en musique, avec le rhum, avec les cigares. Je vous dis, Cuba, c'est une fête. Quoi. C'est...
Voilà. Et la fête aussi, c'était la joie de vivre d'Ernest Hemingway que vous évoquez dans ces images.
Ah oui, il y a tout un sujet dans le film sur Ernest Hemingway. On a suivi ses traces, aussi bien dans l'est de l'île, on a retrouvé sa maison, on est allé visiter sa maison, la Finca Viria, et où c'est très émouvant de voir sa maison, et il y a même son bateau. Le bateau sur lequel il partait à la pêche, où il a écrit des choses comme Le vieil homme et la mer. Et le bateau est là, et les bistrots, les bars où il allait voir ses mojitos, avec modération.
Oui, et il y a une chose aussi, puisqu'on parle de modération, qu'il a écrite, on en a peu parlé, et un jour il est à New York avec des copains, il a 30 ans, et il fait un pari, il dit « je suis capable en 6 mots d'écrire une histoire ». Chacun parie 10 dollars que c'est impossible, et il prend sa plume et il écrit une histoire en 6 mots qui est assez étonnante. Il écrit « À vendre, souliers de bébé jamais portés ». Et ça fait une véritable histoire avec toutes les structures, à tel point que c'est devenu une structure narrative obligatoire dans les écoles aux États-Unis.
D'accord.
C'est assez étonnant, on ne le savait pas. Aujourd'hui, Cuba s'ouvre à la culture française aussi.
Oui, à Cuba, il y a toujours une bonne... Ils aiment bien les Français, ça c'est très bien. Bon, ils sont pas beaucoup à parler français, mais ils sont pendant le castrisme qui est toujours là d'ailleurs. Mais il a manqué beaucoup de choses à Cuba. Mais une chose qui a pas manqué, c'est la culture. C'est la culture. La médecine, la santé, ça a été important pour les Cubains. Mais la culture, sous la forme de leur musique qui est partout, qui est d'une richesse incroyable. Hein. Et dans le film. Il y a beaucoup de musique cubaine. Hein. C'est tout, ça baigne d'un bout à l'autre dans la musique cubaine. Et puis la culture. Je me rappelle, lors de mon deuxième voyage à Cuba, sur mon deuxième voilier, on était arrivé à la Marina Hemingway, justement. La Marina portait le nom d'Ernest Hemingway. Et le médecin qui était venu nous, nous contrôler, voir si on avait des vaccinations qu'il fallait et tout. Il nous a parlé de culture, il nous a parlé d'écrivains français, de littérature. C'est le seul endroit au monde où le médecin qui vient faire l'immigration m'a parlé de culture et de littérature.
En tout cas, on peut parler aussi d'images avec ce DVD Cuba, c'est une fête. Et on peut parler toute l'année d'Antoine en lisant et en découvrant et en notant nos rendez-vous sur cet agenda 2018 qui est chez Gallimard. Vous allez repartir en voyage maintenant.
Voilà, et vous pouvez aussi retrouver, on raconte tout ça sur nos aventures sur notre site internet antoine.tv. On a aussi beaucoup de choses sur le site Futura Science, Futura Voyage, un site qui est très connu avec des millions de visiteurs, mais j'écris des tas de choses et je raconte tout mon voyage à Cuba dans les semaines qui viennent. Là, voilà.
Ben justement, ces voyages, on en reparlera parce que vous avez tellement de choses à dire que vous reviendrez dans les clés d'une vie. Merci Antoine d'être venu
une
deuxième
Jacques,
fois.
Merci Jacques, merci tout le monde et un petit bisou, un grand bisou à toutes les auditrices de Sud Radio et une poignée de main à tous les auditeurs. Salut.
Ils sont de plus en plus nombreux. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaye comme tous les jours à 14h. Et nous, on se retrouve bien sûr demain à 13h pour d'autres clés d'une vie.